Chers fidèles auditeurs et auditrices de Radio Fata, la voix du presbytérien, merci de nous être fidèles et bienvenue dans cette série d'émissions spéciales SEVA, communauté d'église en mission dont le siège est à Montpellier. La SEVA, c'est ses 35 églises présentes dans 24 pays. Au Togo, l'église évangélique presbytérienne du Togo et l'église méthodiste du Togo en sont membres. La présente émission est consacrée au projet Solidarité Santé qui s'est tenu ici à Lomé les 18 et 19 octobre 2019. Pour mieux comprendre ce projet, les acteurs ainsi que les implications pour les églises membres, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos studios trois hôtes de marque. Nous allons laisser nos hôtes se présenter par eux-mêmes. Nous sommes ravis de vous accueillir dans les studios de Radio Efata. On commence par ma droite.
Merci de nous accueillir pour cette émission ici à la Radio Efata, la voix du presbytérien. Je suis pasteur Célestin Kiki et secrétaire général de la SEVA.
Merci également de me donner cette opportunité. Je suis le docteur Long Eloge, médecin chef directrice de l'hôpital pédiatrique Émilie Sacker de l'Union des Églises Baptistes du Cameroun.
Et bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je suis le docteur Daniel Adossi, médecin-chef et directeur de l'hôpital Bethesda. Merci à Radio Efata pour cette opportunité qu'elle nous donne pour parler à mes frères et sœurs de l'hôpital Bethesda. Merci.
Merci en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation et de nous donner de plus amples explications sur ce projet. Alors ma première question va à Monsieur le secrétaire général de la SEVA. Nous savons que la rencontre qui s'est tenue ici les 19 et 20 octobre en est à sa deuxième phase du projet Solidarité Santé. Cela veut dire qu'il y a eu une première phase. Quelle est donc la genèse du projet Solidarité Santé?
Merci encore une fois pour cette occasion qui nous est donnée. Nous nous sommes retrouvés ici au Togo, à Lomé, pour pouvoir parler de la phase 2 de ce projet Solidarité Santé. Donc c'est un séminaire qui vient à la suite d'un bilan qui avait été fait par rapport à la phase numéro 1, la genèse du projet Solidarité Santé. Vous savez, nos églises ont hérité des sociétés de mission un certain nombre d'œuvres à caractère social, dont les œuvres médicales, qui sont des œuvres confessionnelles. Et après, bien sûr, l'autonomie de nos églises, il y avait des difficultés quand même à gérer un certain nombre de ces œuvres médicales confessionnelles. Et dans mes déplacements, j'ai été à plusieurs reprises interpellé par les responsables des hôpitaux pour dire mais qu'est-ce que la SEVA peut faire dans le domaine de la santé? Est-ce que la SEVA ne peut pas de façon spécifique appuyer les hôpitaux? Et dans mes réflexions avec un certain nombre de personnes, notamment le pasteur Anani Kouadjovi, puisque j'étais arrivé au synode ici, au synode de l'EPT, deux fois il m'a interpellé, et puis nous avons conçu un projet. Et le thème autour duquel on devait se retrouver, c'est quelle est la pertinence des œuvres médicales confessionnelles en Afrique? Est-ce que ces œuvres sont encore pertinentes? Parce que en Europe, il faut vous dire, la santé, c'est du domaine régalien. Donc, c'est l'État. Et il n'y a pas beaucoup d'églises, surtout les églises protestantes, qui sont plus propriétaires des œuvres médicales. Donc, nous avons dit qu'il faut réfléchir. Et nous avons réuni ici, même à Lomé, pas à Lomé, à Kbalimé, au Togo, au mois de mai 2014, des responsables des structures de santé, surtout francophones, venant de l'Afrique centrale, venant de l'Afrique de l'Ouest, et nous avons commencé à réfléchir sur la thématique, la vocation des œuvres médicales confessionnelles aujourd'hui. Donc, à l'issue de ce séminaire qui a regroupé d'abord les responsables des hôpitaux, les responsables des églises qui sont propriétaires de ces œuvres de santé, les médecins, les aumôniers, et puis un certain nombre de personnes ressources, nous avons dit, et d'abord nous avons fait des recommandations à l'endroit des églises qui sont propriétaires de ces œuvres, des recommandations à l'endroit des hôpitaux ou des œuvres médicales elles-mêmes, et puis des recommandations à l'endroit de la CEVA. Ce qu'on demandait à la CEVA en ce temps-là, c'est aider vraiment à rechercher des financements pour soutenir ces œuvres, puisque nous savons que ce sont des œuvres à but non lucratif. Les hôpitaux des églises, ce sont des hôpitaux à but non lucratif, c'est du social. Donc, je me suis retrouvé dans un synode de l'église évangile vaudoise d'Italie la même année, donc en 2014, au mois d'août. Et puis l'église me dit, mais est-ce qu'il y a un domaine spécifique dans lequel nous pouvons travailler avec la CEVA? Automatiquement, je leur ai dit, mais écoutez, il y a la santé, puisque nous venons de terminer un séminaire, et à partir de là, l'église évangile vaudoise d'Italie, à travers sa structure qu'on appelle le WIPOMIL, a dit, nous pouvons vous soutenir, mettez en place un projet, et on a conçu un projet sur 3 ans. Donc, voilà la genèse de ce projet Solidarité Santé. Et les 3 ans, c'est 2015 à 2018. Donc, nous avons fini cette phase. On pourrait en parler, si vous voulez, aussi parler des églises ou des hôpitaux qui sont concernés.
Donc, nous parlons de combien de pays, d'églises ou d'hôpitaux qui sont concernés par ce projet de solidarité?
Voilà, il faut dire que ça concerne plus des hôpitaux, hein, parce que quand nous avons eu notre séminaire, il y avait des centres de santé qui étaient là, mais nous avons dit il faut que ce soit des hôpitaux. Et du coup, le conseil exécutif de la CEVA qui a validé le projet a dit il faut pas que ce soit seulement francophone. Donc, il y a des hôpitaux anglophones, et là, nous sommes dans 8 pays, 10 églises et 10 hôpitaux que je peux citer rapidement. Nous avons l'hôpital de Mberechi, qui est en Zambie et qui appartient à l'église unie de Zambie, ce que nous appelons United Church of Zambia. Et puis, il y a un hôpital de l'église évangélique du Lesotho, qu'on appelle Scott Memorial Hospital. Il y a un hôpital au Rwanda qui appartient à l'église presbytérienne au Rwanda, c'est l'hôpital de Kirinda. Et puis au Cameroun, nous avons 3 églises membres, donc il y a 3 hôpitaux. Il y a justement le centre pédiatrique Émilie Sakai qui appartient à l'Union des églises baptistes du Cameroun. Il y a l'hôpital de Nungé qui appartient à l'église évangélique du Cameroun. Il y a l'église de Garoua Boulaye qui appartient à l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Vous avez la polyclinique Le Bon Samaritain de l'église protestante méthodiste du Bénin. Vous avez l'hôpital Bethesda d'Aguyogbo qui appartient à l'église évangélique presbytérienne du Togo. Il y a l'hôpital de Dambaï qui appartient à Ipi Church Ghana, donc Evangelical Presbyterian Church Ghana. Et puis vous avez l'hôpital méthodiste de Dabou qui appartient à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu les 10 hôpitaux, les pays. Nous avons demandé aux églises de faire des choix, parce qu'il y a des églises qui ont des dizaines d'hôpitaux. Et puis, pour cette phase pilote, voilà les 10 hôpitaux avec lesquels nous avons travaillé.
Donc vous n'avez pas pris tous les hôpitaux d'églises membres de façon générale, mais il y a des hôpitaux qui ont été sélectionnés pour participer.
Exactement, parce que ce que nous avons vu, c'est d'abord, est-ce que ces églises ont des hôpitaux? Parce qu'on a des églises qui sont membres de la CEVA qui n'ont pas d'hôpital. Ils ont des centres de santé, mais on voulait quand même à un niveau un peu plus élevé. Et on a bien sûr un partenariat avec 2 hôpitaux d'Italie qui sont Gênes et Naples. Mais l'activité s'est déroulée surtout en Afrique avec les hôpitaux que je venais de mentionner.
En quoi a consisté la phase 1 de ce projet? Vous allez monopoliser la parole quelques moments avant que les autres invités puissent intervenir parce que vous êtes quand même au centre du projet.
Oui, justement, il y a eu un travail qui a été fait. Hein. Ce n'est pas que la CEVA est venue et dit voici ce qu'il faut faire. Je vous ai parlé justement de ce séminaire qui a eu lieu en 2014 à Kpalime. D'abord, les églises elles-mêmes ont fait les diagnostics, état des lieux. C'est ça qui nous a permis de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc, il y a eu des états de lieux qui ont été faits. Nous avons nommé sur ce projet une chargée de mission santé, donc Dr Mathilde Guidemti, qui était là, donc avec ses responsables d'église. On a eu aussi des séminaires. Et puis, ce projet avait surtout 5 axes. Donc, c'est d'abord le témoignage et la solidarité. Parce que l'Église, c'est ça, hein, c'est le témoignage, c'est la solidarité, c'est du social. Et puis, on a travaillé sur l'axe de la gestion des ressources humaines, donc la gestion des ressources matérielles et financières, le partenariat et puis l'évaluation. Il faut dire qu'au niveau des activités communautaires, il y a le renforcement de capacités des différents acteurs. Et ça, c'est ce que nous avons fait en organisant un certain nombre de séminaires pour des aumôniers, pour les médecins, pour les financiers, c'est-à-dire les gestionnaires, et en même temps, avec les responsables d'église, il y a eu l'adoption au niveau de chaque structure d'un projet d'établissement, d'abord l'élaboration et l'adoption, et puis on a mis en place un logiciel de gestion. Les actions spécifiques, ou je dirais ce que nous avons fait, surtout au niveau des hôpitaux, c'est l'aménagement des bâtiments. Je peux vous donner quelques exemples rapidement. Au niveau du bâtiment, de la construction, je prends à côté de nous, au Togo, ici, Ipichurch, Ghana. Donc, on a construit une maternité à Dambaï. Avec dans le cadre de ce projet-là, il y a eu également une construction à Porto Novo, un bâtiment administratif, puisque l'administration était même logée dans le bâtiment d'hospitalisation. Et puis, nous avons par exemple Mberechi, où on a construit le laboratoire, et à Kirinda, au Rwanda, où on a construit un pavillon pour l'ophtalmologie. Donc, il y a d'abord ça en construction. Après, il y a eu équipement. Donc, équipement, et tous les hôpitaux ont bénéficié d'équipement. Et à goût pour à goût, le docteur Adossi en parlera tout à l'heure. Et pour Émilie Saquet, docteur et Logelon en parlera tout à l'heure. Mais là où vraiment il y a eu un équipement, un investissement aussi lourd, c'est l'église méthodiste de Côte d'Ivoire qui a été dotée d'une unité d'hémodialyse dans le cadre de ce projet-là. Donc, on a doté les hôpitaux des appareils dont ils avaient besoin. Et puis, la dernière activité, ce qu'on a fait, c'est l'approvisionnement en médicaments de ces centres. Parce que vous savez que les sources de revenus au niveau des hôpitaux, ce ne sont pas les consultations, ce sont les actes et puis ce sont les médicaments. Donc voilà un peu ce que nous avons fait avec ces dix hôpitaux.
Merci Monsieur le Secrétaire Général pour toutes ces informations qui nous permettent de mieux comprendre le projet. Docteur Eloge, on a dit tout à l'heure qu'il y a eu des états des lieux, des renforcements des capacités, des équipements. De la première phase à cette deuxième, il y a eu 3 ans, je crois. Avez-vous constaté qu'il y a eu un impact par rapport à votre quotidien?
Bien entendu, il y a eu un impact assez fort parce que quand l'hôpital prend connaissance du projet, nous sommes dans une situation assez critique. C'est pour ça que nous avons été invités pour pouvoir bénéficier de l'expertise de ceux-là qui avaient imaginé ce projet. Donc, avant de parler des bénéfices, l'idéal serait de commencer par dire quelles étaient nos difficultés. nos difficultés étaient l'accessibilité aux médicaments. Nous n'avions pas de fonds pour fournir notre pharmacie en médicaments et donc répondre aux besoins des patients. C'est-à-dire, on commençait la prise en charge du patient dans les consultations, mais on n'était pas en mesure d'assurer une gestion du patient sur le plan biologique. On ne pouvait pas faire des examens nécessaires aux patients en fonction de la pathologie du patient. On ne pouvait pas leur assurer des médicaments pour le suivi complet. Donc, il y avait ce manque de financement de fonds pour les médicaments. Et également pour le laboratoire, nous n'avions pas les équipements nécessaires pour pouvoir pratiquer les examens biologiques. Donc c'est dans ça que nous nous sommes vraiment appuyés, c'est ça qui a constitué notre projet à nous, le projet que nous avons monté, projet de financement en achat de médicaments et de matériel d'équipement biologique, d'équipement pour faire les analyses biologiques. Donc quand nous avons pu avoir ça, ça nous a donné une certaine autonomie sur le plan financier pour pouvoir clôturer la gestion du patient. C'est-à-dire, on le consulte, on fait le bilan, on assure le suivi.
Mené jusqu'au bout.
C'est ça, le processus est mené jusqu'au bout. Et vraiment, la satisfaction, ça s'est ressenti tout de suite. Les patients n'hésitaient pas à venir vers nous pour nous dire, ça y est, on est enfin satisfait du service que vous rendez. Ça a vraiment eu un impact sur la crédibilité de la structure sur le plan de la santé publique, sur le plan de la délégation régionale, c'est-à-dire que nous avons pu rétablir certains partenariats qui avaient été perdus avec la délégation régionale de la santé et donc le ministère de la santé. Ça a augmenté les recettes, les fréquentations d'abord, parce que le patient qui sait que tiens, ça y est, il y a un suivi adéquat, il va revenir, ils reviennent avec plusieurs autres patients, dont la fréquentation a augmenté et les recettes ont augmenté. Nous avons, à la suite de ça, il y a une continuité dans la première phase. Il s'agissait maintenant de canaliser sur tout ce qui avait été développé avec cet achat de médicaments, cet achat d'équipement, il fallait mieux gérer les acquis. C'est pour ça qu'on nous a mis en place un logiciel de gestion et ça nous a permis de prendre une autre dimension dans la gestion, dans le projet. C'était le contrôle des activités, le contrôle de la gestion des activités dans la structure, que ce soit financière, que ce soit des activités de production et même d'une certaine manière des ressources humaines. Donc voilà le positif dans tout ça. Il y a une meilleure visibilité de la gestion de la structure. Il y a une meilleure visibilité de la structure en elle-même sur le plan de la ville, sur le plan régional. C'est ça en fait.
Nous retrouvons dans ce que vous avez dit les propos d'un participant venu du Cameroun de l'Est. Vous avez donné l'hôpital de Garoua-Boulaye qui a dit la même chose par rapport à la visibilité, surtout de la gestion des médicaments qui étaient accessibles aux patients.
À l'hôpital protestant de Garoua-Boulaye, avant le début du projet, on avait régulièrement les problèmes de rupture de médicaments. Vous savez que le médicament, c'est ça qui fait tourner la formation sanitaire. Et c'est ça qui amène les malades vers la formation sanitaire. On avait toujours ce problème de rupture de médicaments, rupture de stock. On avait également un grand problème de stabilité électrique. Tout le temps, il y avait des coupures d'électricité. Et ça fait que un médecin qui est en train d'opérer, immédiatement quand il y a coupure d'électricité publique, l'hôpital avait énormément de problèmes. Les malades en souffraient. C'est alors qu'au moment où la SEVA, avec le projet Solidarité Santé, a choisi notre hôpital pour renforcer la qualité et la capacité des activités, notre hôpital s'est vu doté d'un stock de médicaments et qu'il a bien géré. Et après un certain temps, donc chaque jour, l'hôpital mettait 30% des bénéfices de ces médicaments pour un deuxième projet appelé projet rentable. C'est à ce moment, quand l'argent avait été déjà suffisant, l'hôpital s'est vu doté d'un groupe électrogène. Et depuis 3 ans, nous avons une stabilité du courant électrique dans la formation sanitaire. Nous faisons nos activités sans problème et nous avons donc réussi à stabiliser également la gestion des médicaments. Nos malades ne se plaignent plus, ils ne vont plus dans les pharmacies en ville acheter les médicaments, ils peuvent les avoir sur place. Ce projet nous a également aidé à former notre personnel en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, en ce qui concerne la qualité des activités au sein de l'hôpital. Nous avons également bénéficié de la formation de nos responsables financiers qui ont mis en place des logiciels de gestion des finances, des ressources financières qui permettent maintenant à l'hôpital d'identifier les ressources et également de bien gérer les ressources disponibles. Grâce à ce projet Solidarité Santé, l'hôpital protestant de Garoboulaye a réussi à émerger et à stabiliser ses activités et améliorer la qualité des services. Comme perspective, nous voulons d'abord pérenniser les acquis. Ça veut dire tout ce que nous avons reçu pendant les 3 premières années, nous voulons voir ces activités maintenues et améliorées. Nous voulons également améliorer davantage notre hôpital dans le cadre de la formation du personnel, dans le cadre de la gestion des activités. Nous voulons également créer le réseau, en tout cas faire bénéficier aux autres formations sanitaires qui sont membres du projet Solidarité Santé des bonnes choses que l'hôpital protestant de Garoboulaye offre au sein de la communauté. Nous voulons également rendre encore plus visible notre structure, pas seulement au sein de l'Église, mais également au sein de tout le public qui aura besoin de venir dans une formation sanitaire. Donc, avec la deuxième phase du projet Solidarité Santé, l'hôpital protestant de Garoboulaye veut encore améliorer ses prestations et encore rendre plus efficace la prise en charge des malades dans notre structure. Comme formation sanitaire confessionnelle, nous devons être les témoins vivants de Jésus-Christ. Nous devons soigner avec la compassion. Nous devons offrir aux malades qui viennent vers nous l'esprit de Jésus-Christ qui vient et sauve les prochains. Donc nous voulons que dans nos formations sanitaires, le personnel qui y travaille soit compatissant, que le personnel qui y travaille soit humaniste, que le personnel qui y travaille véhicule auprès de la communauté, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou athée, hein, ce message que Jésus-Christ nous a apporté pour sauver le prochain. Donc, nous avons un slogan dans notre formation sanitaire qui dit « Nous traitons, mais Jésus guérit ». C'est ce slogan que nous voulons également voir grandir dans toutes les formations sanitaires membres du projet Solidarité Santé.
Docteur Adossi, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que docteur Longelogé est en train de dire par rapport à l'hôpital Bethesda d'Agbunyogbo, notre hôpital?
Merci beaucoup, madame. Nous nous retrouvons tout à fait dans tout ce que vient de dire Loge. On dirait une copie collée de tout ce qui a été fait au Cameroun, ici, dans notre hôpital Bethesda. Bon, tout naturellement, l'hôpital Bethesda également est une structure qui bénéficie de cet appui de la CEVA. Comme l'a dit le pasteur Kiki, l'un des promoteurs de ce projet étant le pasteur Kwadjovi Anani, qui était alors directeur de l'hôpital Bethesda. Il était tout à fait normal que l'hôpital Bethesda, et puisque la première réunion d'ailleurs de lancement s'est passée au Togo ici, c'était à Palimé, à Bafok, c'était tout à fait normal que l'hôpital Bethesda soit l'un des premiers hôpitaux à bénéficier de ce projet Santé Solidarité. Et l'hôpital avait beaucoup de problèmes. Et comme l'a dit mon collègue, mon confrère, il y avait camerounaise, il y avait des ruptures alors très fréquentes de médicaments au niveau de notre pharmacie, et ce qui faisait que la clientèle baissait à vue d'œil. Un malade qui arrive, par exemple, à 23 heures, vous le voyez, vous faites une ordonnance, le malade est obligé de reprendre la route pour ceux qui connaissent la région,
et d'aller à Palimé, de l'hôpital,
chercher les médicaments avant de revenir. Donc le premier problème auquel la CEVA s'est attaquée au niveau de l'hôpital Bethesda, c'était de refinancer, de financer la pharmacie de l'hôpital. Et ceci a été fait, et Dieu merci, aujourd'hui l'hôpital ne connaît plus de rupture de médicaments comme c'était le cas auparavant. Et la CEVA a également soutenu d'autres projets à l'hôpital Bethesda, et par exemple la réhabilitation de notre bloc opératoire par l'acquisition d'un certain nombre de matériel, un amplificateur de brillance, une table orthopédique, une table d'anesthésie, et ce qui nous permet de mieux faire face aux cas de traumatologie qui se présentent au niveau de l'hôpital. Et il y a également un autre aspect de cet appui, c'est l'informatisation de l'hôpital par la mise en place d'une connexion Internet à haut débit d'abord, et puis la dotation de pratiquement tous les services d'ordinateur et la mise en place d'un logiciel qui nous permettra désormais d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe à l'hôpital et d'améliorer également la gestion financière de l'hôpital. Bon, je ne peux pas passer ici sous silence le fait que peut-être en même temps que ce projet, la CEVA a pris en charge la formation d'un médecin togolais qui est en train de terminer cette année son DS de gynécologie et qui, si les choses marchent bien, l'année prochaine pourra commencer à travailler avec nous à l'hôpital Bethesda en tant que gynécologue. Donc voilà un peu résumé ce que ce projet Solidarité Santé nous a aidé à faire au niveau de l'hôpital Bethesda.
Par rapport à tout ce que vous avez dit, je voudrais revenir au secrétaire général pour comprendre la forme pratique même du projet. Parce qu'on parle de renouvellement de plateaux techniques, de formation de personnel, de financement pour l'achat des médicaments. C'est des projets qui sont conçus par rapport aux besoins que vous soutenez, ou alors il y a un projet global de l'hôpital que vous soutenez. On voudrait comprendre comment ça se passe de façon pratique.
Quand nous avons travaillé avec les hôpitaux, je le redis encore, ce n'est pas la méthode de la CEVA, c'est l'animation théologique, et l'animation théologique permet au peuple d'exprimer ses besoins et avoir une lecture aussi de l'évangile. Donc, chaque hôpital a essayé de dire un peu ce dont il avait besoin. Et nous avons essayé de récapituler cela en trois catégories, trois axes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc construction, équipement et puis approvisionnement en médicaments. Donc après, on disposait d'une enveloppe financière. Il y a ce qui est communautaire, c'est-à-dire la formation, par exemple, les séminaires que nous organisons, des rencontres que nous organisions. Et puis maintenant, il y a une enveloppe qui était destinée pour soutenir les activités des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui ont dit, nous, on a besoin d'équipement, on a besoin d'approvisionnement. Mais il y a quelque chose qu'on leur a imposé pratiquement, c'est le logiciel de gestion. Ça permet d'avoir une visibilité. Donc, tous les hôpitaux ont été dotés de logiciels de gestion. Et puis, ils ont tous bénéficié de la formation. Donc, chaque hôpital envoyait ses projets. Mais ce n'est pas automatique parce qu'on avait mis en place un comité technique opérationnel que nous appelons CTO. Quand ils envoient leur projet, donc ce sont des techniciens qui sont là, des médecins et autres, qui analysent ces projets pour voir leur pertinence. Et après, il y a un autre organe qui décide, c'est ce que nous appelons le comité de pilotage de ce projet, constitué maintenant au niveau politique de la présidente de la CEVA, du secrétaire général de la CEVA, du modérateur de l'église évangélique vaudoise d'Italie, de la responsable de Wipomil, de notre chargé de mission santé, et plus celle qui s'occupe aussi des projets et échange de personnes de la CEVA. Donc voilà, ils envoient leur projet, nous travaillons là-dessus, et puis voilà, la décision est prise et l'hôpital met en œuvre cette activité-là.
Là, ils ont dit ce qu'il y a eu comme bénéfice par rapport au projet dans leur... hôpitaux, mais vous, de votre côté, est-ce que vous avez un système qui vous permette de mesurer les résultats ou alors un suivi par rapport à la gestion des fonds?
Justement, il y a eu des équipes pour aller évaluer. Ça, c'est ce qui était intéressant. On a mis en place des équipes pour une auto-évaluation, bien sûr, mais pour une évaluation, ça fait que on a pris des gens du Togo pour aller évaluer, bien sûr, par rapport au protocole, aller évaluer ce qui est fait au Rwanda. Donc, ils se sont constitués des équipes. Docteur Long était à Garoua Boulaye pour voir avec la chargée de mission. Mm-hmm. Donc, à l'issue de cette évaluation, un bilan a été fait. Le projet était sur 3 ans. Un bilan a été fait et puis a montré quelques résultats positifs. Ce que je peux vous livrer par rapport à ces résultats-là, c'est que désormais, il y a eu un taux de fréquentation à la hausse de 70%. Voilà ce que le docteur Adossi l'a dit. La fréquentation, docteur Long aussi l'a dit. Donc, une durée d'hospitalisation de 5 jours, parce qu'avant, on pouvait rester longtemps. Il y a eu une amélioration significative de la prise en charge des malades. Parce que vous savez, la spécificité de nos hôpitaux aussi, c'est l'accueil. Et on a beaucoup mis l'accent sur l'accueil. Parce qu'un malade qui se sent accueilli est déjà guéri à quelques pourcentages. Hein. Moi, je ne suis pas du domaine. Mais vous savez, quand vous vous présentez, ils sont là. Docteur Adossi, docteur Long peuvent mieux le dire. Donc, l'accueil, on a beaucoup mis l'accent sur ça. Et puis, un taux de réalisation des projets spécifiques. Donc, des projets qu'eux-mêmes, ils ont élaborés de l'ordre de 70%. Je suis au regret de dire ici qu'il y a un hôpital qu'on a sorti du projet. Parce que cet hôpital n'a pas respecté les règles du jeu, la gestion n'était pas transparente, c'est comme si on envoie de l'argent, ça tombe dans un trou, l'argent est détourné pour d'autres choses, pour aller payer le personnel. Ce n'était pas ça au début. Et nous leur avons dit, sur ce projet-là, ce qu'on vous envoie, vous mettez 30% de l'argent de côté, dans un compte ouvert, et puis ces 30% peuvent financer d'autres activités. Il y a eu un impact positif avec une bonne visibilité des actions de l'Église dans ces projets. Et ces conclusions ont été présentées à l'Assemblée Générale de Douala qui a eu lieu en 2018. Et notre partenaire, quand je le dis comme ça, c'est vrai que l'Église évangélique vaudoise d'Italie est membre de la CEVA. Quand le bilan a été fait, c'est eux-mêmes qui ont dit il faut aller à une phase 2, à une deuxième phase. Donc, on a conçu cette deuxième phase-là et on vient de faire le lancement, voilà, pour avoir l'adhésion des responsables d'église et les responsables des hôpitaux. Donc, on a déterminé les axes, les activités à mener par rapport à cette deuxième phase qui va couvrir une période également de 3 ans, donc jusqu'en 2022.
Je reviens au docteur Adossi pour parler un peu plus de l'hôpital Bethesda qui devrait intéresser beaucoup plus nos auditeurs parce que c'est à proximité, bien sûr. Nous savons que l'hôpital est en train de, ou à traverser, même si ça s'améliore, traverse des difficultés en ce moment. Vous l'avez dit, c'est vrai que le projet a permis de résoudre un certain nombre de problèmes, mais on parle actuellement de la phase 2. Est-ce que vous pensez que ça peut vous permettre de faire face aux défis auxquels vous vous êtes confrontés actuellement?
Merci beaucoup, madame. Et Dieu merci que l'hôpital Bethesda a été retenu également pour bénéficier de cette phase 2 parce que c'est vrai que ce n'était pas du tout évident au départ, mais Dieu merci, nous sommes encore éligibles et élus. Et donc,
cela veut dire qu'il y a eu une gestion claire et transparente de...
Voilà, oui, il y avait quelques problèmes, voilà, bon. Mais l'église et l'hôpital a réussi à surmonter cette difficulté, se conformer aux normes.
Donc, nous attendons beaucoup de cette deuxième phase. Vous savez, le problème de l'hôpital Bethesda, actuellement, pour le moment, c'est un problème de personnel qualifié. Donc, maintenant que la CEVA a accepté et formé quelqu'un en gynéco jusqu'au bout, nous attendons, c'est un projet que nous allons soumettre, qu'un jeune médecin soit identifié et formé dans un autre domaine, la chirurgie par exemple. Comme ça, parce qu'actuellement je suis le seul médecin, et avec cette formation, nous serons trois médecins, ce qui permettra de voir pratiquement tous les aspects de la médecine, pratiquement tous les aspects au niveau de l'hôpital. Un autre domaine, c'est les ressources humaines. Nous allons essayer de mettre l'accent sur les plans de carrière par la formation de quelqu'un qui pourra s'occuper des ressources humaines au sein de l'hôpital pour définir les plans de carrière. Parce que qu'est-ce qui se passe? Très souvent, les gens arrivent à l'hôpital Bethesda, infirmiers, sages-femmes, et même médecins. Quelque temps après, ils s'en vont parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. C'est un problème auquel nous voulons faire face et pour qu'on n'ait plus ces départs intempestifs, etc. etc. Bon, autre chose, nous avons toujours des problèmes de matériel parce que l'hôpital Bethesda est à reconstruire. Nous allons également soumettre un problème par rapport à une salle de radio et parce que notre radio actuellement, qui nous a été payée par la CEVA il y a plus de 10 ans, est complètement en panne. Et s'il plaît à Dieu, nous aurons une radio et pourquoi pas numérisée pour pouvoir soutenir la concurrence dans la sous-région. Donc nous attendons beaucoup de cette deuxième phase et nous avons vraiment espoir.
En parlant justement de concurrence, et là la question s'adresse à vous en tant que médecin-chef, dans vos environnements respectifs bien sûr, la concurrence est effectivement rude. Est-ce que vous pensez justement à des solutions qui puissent vous amener à tenir cette concurrence? Parce qu'il y en a qui pensent, là heureusement vous avez un hôpital pédiatrique, donc spécialisé, peut-être que ça vous permet de sortir du lot. Mais l'hôpital Bethesda, par exemple, est-ce que vous pensez peut-être, est-ce que ce serait une solution de se spécialiser ou pas? C'est des perspectives, hein, en termes de perspectives.
Et c'est vrai qu'il y a, depuis un certain nombre d'années, des centres de structure qui sont implantés ici et là, dans la sous-région. Mais pour être franc avec vous, je n'ai pas peur de la concurrence. Parce que, un, nous sommes un hôpital confessionnel. Et tout le monde connaît les qualités d'un hôpital confessionnel. L'accueil dans la sous-région, nous n'avons pas de concurrents. C'est pourquoi, malgré la situation que nous traversons aujourd'hui, des gens n'hésitent pas à quitter les autres régions, Lomé, Atapamé, etc., pour venir vers notre hôpital Bethesda se faire soigner. Donc, nous n'avons pas peur de concurrence. Notre problème, c'est quoi? Si nous arrivons à mettre du matériel, nous avons un performant. Plateau technique, du matériel performant, et du personnel qualifié, d'où la formation, etc. Là, nous n'aurons pas peur de cette concurrence-là. Et nous pouvons toujours nous en sortir. Ça, j'en suis certain.
Docteur Longeloge, vous faites face à la concurrence dans votre environnement?
Ah oui. Nous, au contraire de l'hôpital Bethesda, nous sommes acculés par la concurrence parce que nous sommes en plein centre-ville de la capitale économique. Et du coup, nous avons tout autour de nous des cliniques spécialisées, des hôpitaux régionaux et autres. Donc, nous avons certes cette spécialisation pédiatrique, mais l'idéal serait d'orienter encore plus les prestations, notamment par exemple dans le domaine de la néonatologie, notamment dans la chirurgie orthopédique par exemple, la cardiologie pédiatrique. Il y a plein de domaines dans lesquels il serait bon pour nous d'orienter encore, de spécialiser nos prestations pour pouvoir mieux se faire voir par rapport aux autres cliniques concurrentes.
Des propos que nous avons recueillis hier lors de la journée de travail que vous avez eue, il y a aussi cette difficulté que les centres rencontrent, les hôpitaux rencontrent par rapport aux attentes des patients. Nous allons écouter ce que nous a dit le responsable du centre dans l'est du Cameroun.
Effectivement, par rapport à ce problème, le projet Solidarité Santé a également pour objectif de faire à ce que l'image de nos formations sanitaires soit améliorée auprès des communautés. et que les responsables des églises qui portent nos hôpitaux puissent également porter la responsabilité de faire fonctionner nos formations sanitaires. Vous savez, aucune formation sanitaire membre de la CEVA ou même confessionnelle ne fabrique, par exemple, les médicaments. Nous devons les acheter ailleurs. Ça veut dire que nous ne pouvons pas fonctionner sans moyens financiers. Et pour générer et pour avoir ces moyens financiers, ils doivent venir des malades. Ce qui veut dire que nos hôpitaux deviennent également des entreprises. Et nous devons améliorer la gestion de nos formations sanitaires, amener, comme vous dites, les malades à comprendre que le financement de la santé a un coût et que ce financement doit être fait pour que nous puissions leur apporter ce dont ils ont besoin.
C'est vrai, ça a été comme ça depuis des années. Lorsque le missionnaire est arrivé, c'est comme ça qu'on a perçu les centres de santé confessionnels. Mais de nos jours, vous voyez, la santé évolue. Quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire du bon travail. Il nous faut de l'infrastructure, un plateau technique, un personnel qualifié. Tout cela demande un moyen. Le minimum, je suis sûre qu'au niveau des centres de santé confessionnels, la tarification n'est pas aussi grande comme elle. Elle est juste là pour aider à renouveler notre matériel et à encourager les personnes qui travaillent avec nous. C'est même pour ça que nous demandons que l'Église soutienne ces œuvres, parce que ces œuvres procèdent à la visibilité et au bon témoignage des Églises. Même si l'Église, en tant que l'Église, c'est nous, l'Église, c'est tous les fidèles, que les fidèles qui ont les capacités, que ce soit intellectuelles ou financières, qu'ils les mettent à disposition de ces centres de santé. De nos jours, il y a trois piliers de développement de la santé. Il y a les hommes, il y a l'infrastructure ou le plateau technique et il y a les finances. On ne peut pas se voiler la face. Sans argent, on ne peut plus faire de la santé.
Et est-ce que vous avez les mêmes difficultés? Parce qu'il y en a qui viennent, ils se disent que c'est un centre confessionnel, donc c'est gratuit, on n'a pas besoin de payer, parce que on a dit qu'il faut l'évangélisation, c'est l'homme dans sa globalité, c'est tout l'évangile à tout l'homme, donc il faut donner. Est-ce que vous avez les mêmes difficultés vous aussi?
Nous avons, les nôtres sont même certainement plus profondes, parce que, comme je disais, nous sommes en plein centre-ville de la capitale économique et tout autour, ce sont des cliniques spécialisées qui sont chères. Mmh. Et du coup, le patient ne pouvant pas se permettre d'aller dans ces cliniques, ils viennent en priorité chez nous. Mmh. Et ils s'attendent à ce qu'on les prenne en charge. Mmh. Sans forcément avoir à sortir quoi que ce soit du moment, parce que nous sommes un hôpital confessionnel, nous sommes là pour eux, certes, mais ils n'ont pas vraiment, ils ne voient pas la chose sur le plan, sur un autre plan, dans le sens où ce sont des personnes qui travaillent également dans ces hôpitaux. On a besoin de fonds pour assurer les examens, les médicaments et autres. Donc, ils s'attendent forcément à ce que la prestation soit gratuite, complètement.
Docteur Adossi, vous faites face aussi à cette difficulté?
Et absolument, absolument. D'autant plus qu'au début, tout était pratiquement gratuit à l'hôpital Bethesda. Mais cela a pu se faire
quand les missionnaires...
Quand les missionnaires étaient là, quand les Allemands étaient là, quand il y avait des subventions conséquentes, cela a pu se faire. Mais c'est terminé. Les missionnaires sont partis, les partenaires sont pratiquement partis, et il faut que l'hôpital devienne autonome et puisse survivre. Mm. C'est vrai, nous ne faisons pas le privé parce que nous sommes conscients que l'hôpital n'est pas à but lucratif. Nous sommes tous dans du social, mais il faut oublier, ça ne peut pas être complètement gratuit parce que la santé, quoi qu'on le dise, a un certain prix.
Monsieur le secrétaire général, vous êtes pasteur. Est-ce que vous comprenez? Je me souviens, il y a quelques années, lorsqu'on a rencontré le pasteur Kwadjovi dans le cadre d'une campagne de mobilisation que DM Échange et Mission avait organisée. Et il avait exprimé justement cette difficulté et surtout le fait qu'il soit pasteur. Ça lui posait justement ce problème parce qu'il dit je suis pasteur et quand on vient on sait que je suis pasteur, tout de suite c'est plus compliqué. Vous êtes pasteur avant tout, est-ce que vous comprenez cet état de choses?
Oui,
il faut dire aussi que ma passion pour ce projet, c'est que j'ai été président du comité de gestion de la polyclinique Le Bon Samaritain de Porto-Novo avant d'aller à la CEVA, si bien que la santé, ça me tient à cœur. J'ai même d'abord travaillé sur les œuvres à caractère social de nos églises dans l'espace francophone. Vous savez, ça fait partie du témoignage. Mais faisant partie du témoignage, il faut que l'Église sache également que c'est ça qui rend l'Église visible. Et il faut y mettre du prix. Mais en même temps, vous savez, on essaie de dire aux gestionnaires, nous sommes là pour faire du social, mais pour faire également du social, il faut que l'Église y mette les moyens. C'est pour ça, d'ailleurs, à la CEVA, j'en ai fait aussi une priorité. Ça a permis un peu de rehausser le service, d'équiper. Je dis encore que nos églises doivent savoir qu'elles sont propriétaires de ces œuvres-là et que nous devons leur donner des moyens pour témoigner de cette dimension de tout l'évangile à tout l'homme, l'homme dans sa globalité, le pasteur Sétignon Meillon, donc dans toute sa globalité. Mais aujourd'hui encore, on est dans un environnement, on en a parlé, qu'on essaye de voir comment on rehausse le service. Si le service est de qualité, s'il y a la qualité de soins, je crois que même si on augmentait un peu, les populations vont comprendre. Mais c'est d'abord cette qualité-là, mais nous sommes là pour du social.
C'est un projet d'accompagnement qui implique donc une lourde responsabilité parce que aujourd'hui c'est 10 hôpitaux. Il y a d'autres qui n'en ont pas bénéficié. Ça veut dire que ça implique une lourde responsabilité pour vous qui avez la chance d'être impliqué. Qu'est-ce que vous avez comme motivation aujourd'hui pour que le projet puisse être pérennisé parce qu'on pense qu'il le faut. Il y a eu 3 ans. Heureusement, le bailleur a dit « Ok, on reconduit pour 3 ans, mais on espère que ça va être plus que ça. » Donc, quelles sont vos motivations qui puissent aujourd'hui être comme un mot d'encouragement pour les autres?
Les motivations, c'est de voir nos œuvres médicales sortir de l'ombre, participer à la santé de la communauté, avoir une place à part entière dans le système de santé, être des partenaires et non des concurrents. Voilà la motivation. Pour ça, nous avons bénéficié de toute l'expertise de ce projet. Nous sommes certes les hôpitaux pilotes. Il va falloir prendre en charge les autres hôpitaux, les accompagner comme nous avons été accompagnés pour que eux aussi puissent bénéficier, certes indirectement, de ce que nous avons pu bénéficier pendant le projet.
Docteur Adossi.
Nos motivations, c'est vraiment, franchement, d'atteindre les objectifs que s'est fixé cette deuxième phase de ce projet Solidarité Santé. Pourquoi pas? À la fin de ces 3 années, après évaluation, que l'Église vaudoise dise, bon, c'est très bien, partons pour une 3e phase, pour que nos hôpitaux sortent vraiment des difficultés dans lesquelles ils pataugent actuellement. Et puis nous profitons de cette occasion pour, je reprends ce que le pasteur Célestin Kiki a dit, les hôpitaux confessionnels sont les propriétés de nos églises. Il faut qu'elles essaie d'être des marraines pour ces hôpitaux, pour que ces hôpitaux retrouvent leur notoriété d'antan dans la carte sanitaire de nos pays.
Voilà. Nous avons recueilli aussi les propos de Dr Mathilde Kidimti, qui est chargée de mission sur ce projet à la CEVA, et elle a eu un mot d'encouragement par rapport aux différents acteurs impliqués dans le projet et responsables des hôpitaux. Nous allons l'écouter.
Mais je vais déjà dire aux professionnels de santé qui sont les premiers acteurs de ne pas lâcher prise. Ce n'est pas facile. Travailler dans un milieu sanitaire, dans un milieu médical, n'a jamais été facile. Nous avons des défis. Et nous sommes sûrs, comme nous sommes dans un contexte religieux, que le Seigneur va nous accompagner. Ce que nous faisons au quotidien, vous l'avez très bien dit, il est noble. Il ne faudrait pas qu'on le perde de vue. Il est noble parce que nous participons ainsi à l'amélioration de la santé de la population. Nous disons, nous voyons l'homme. Et l'amour que Christ nous donne, ou nous demande de partager, c'est de voir l'homme comme nous-mêmes. Et cet homme, il faudrait qu'on le soigne. Et nous sommes prêts, avec les moyens que nous avons, à aider à ce qu'on soigne l'homme. Restons engagés, motivés, et nous allons atteindre ce but. Ça n'a pas été facile, mais positivons. À la population, c'est de fréquenter les centres de santé confessionnels. Et aussi aux fidèles de des églises, de les soutenir et de les fréquenter. La qualité des soins n'est pas négligeable. Nous faisons du bon travail, mais il faut que les gens viennent voir. De nos jours, vous voyez, la santé évolue. Quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire du bon travail. Il nous faut de l'infrastructure, un plateau technique, un personnel qualifié. Tout cela demande un moyen. Le minimum, je suis sûre qu'au niveau des centres de santé confessionnels, la tarification n'est pas aussi grande comme elle. Elle est juste là pour aider à renouveler notre matériel et à encourager les personnes qui travaillent avec nous. C'est même pour ça que nous demandons que l'Église soutienne ces œuvres, parce que ces œuvres procèdent à la visibilité et au bon témoignage des Églises. Même si l'Église, en tant que l'Église, c'est nous, l'Église, c'est tous les fidèles, que les fidèles qui ont les capacités, que ce soit intellectuelles ou financières, qu'ils les mettent à disposition de ces centres de santé. De nos jours, il y a trois piliers de développement de la santé. Il y a les hommes, il y a l'infrastructure ou le plateau technique et il y a les finances. On ne peut pas se voiler la face. Sans argent, on ne peut plus faire de la santé. Thank you.